Lisboa, Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique centrale. République démocratique du Congo, le rassemblement de l'opposition a annoncé aujourd'hui avoir réuni des signatures d'élus en vue d'attaquer pour inconstitutionnalité la nouvelle loi électorale promulguée mardi par le président Joseph Kabila. Plus de 50 signatures de députés d'opposition et de la majorité sont déjà réunies pour contester devant la Cour constitutionnelle la modification de la loi électorale, a déclaré à l'AFP le député Christophe Lutundula, l'un des principaux responsables du rassemblement qui est la principale coalition d'opposition dans le pays. Et toujours en RDC, l'abbé Vincent Tchomba, douanier des curés de Kinshasa, a été convoqué ce mercredi par la justice pour avoir exhorté les prêtres de la capitale à sonner les cloches pendant 15 minutes chaque jeudi à partir de 21h heure locale, 20h temps universel, pour exiger le départ du président Joseph Kabila. Selon Maître Kapiamba, l'un des avocats de l'abbé, c'est la deuxième fois que son client est convoqué par les autorités. Les jeudis 14 et 21 décembre, la majorité des paroisses catholiques avaient respecté l'appel à sonner les cloches du père Tchomba. Au même moment, dans la majorité des quartiers de Kinshasa, la population s'était livrée à un concert de casseroles, de sifflets et de klaxons. Tchad, le président Idriss Déby Itno et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont eu des consultations hier à N'Djamena. Les deux leaders ont rappelé leur position sur la question de Jérusalem et ils ont aussi signé des accords économiques. Eric Manirakiza.
Idriss Déby Itno et Recep Tayyip Erdogan ont d'abord salué leur parfaite convergence de vues sur les questions internationales, notamment le terrorisme et le conflit israélo-palestinien. Ils ont déclaré que les décisions unilatérales et illégales sur Jérusalem sont inacceptables et nulles. Pour eux, la création de l'État de Palestine indépendant et souverain, avec une intégrité géographique ayant pour capitale Jérusalem-Est, dans les limites des frontières de 1967, constitue la condition principale pour la paix et la stabilité dans la région. En marge de cette visite, les deux dirigeants ont conclu des accords relatifs à l'impôt sur le revenu, la coopération en matière de jeunesse et sport, la coopération technique et de développement, la promotion et la protection des investissements et la coopération dans le partage d'informations et d'archives diplomatiques. Le président turc était accompagné d'une dizaine de ministres et d'hommes d'affaires.
Partage des eaux du Nil, l'Égypte suggère à l'Éthiopie et au Soudan de faire appel à des experts internationaux pour résoudre le différend lié à la construction par les autorités éthiopiennes d'un grand barrage sur ce fleuve. Les précisions de Lionel Gaïma.
Les ministres égyptiens et éthiopiens se sont rencontrés mardi à Addis Abeba pour tenter de résoudre les divergences sur le rapport d'impact environnemental du barrage de la Grande Renaissance. Avec ce projet hydroélectrique de 4 milliards de dollars, l'Éthiopie ambitionne de devenir la première exportatrice d'énergie électrique en Afrique. Le Caire doute que ce barrage en construction réduise la quantité d'eau traversant le Soudan vers les lacs de retenue et les champs irrigués égyptiens. Addis Abeba assure de son côté que de telles craintes ne sont pas fondées. Le dossier n'a pas progressé depuis la dernière réunion au mois de mars, a déclaré le chef de la diplomatie égyptienne Sameh Shoukry. L'Égypte a proposé de faire appel à une expertise extérieure, a-t-il dit sans précision. Selon les participants de la réunion d'Addis Abeba, Sameh Shoukry a suggéré l'implication d'entités internationales comme la Banque mondiale. Son homologue éthiopien Wokney Gebeyehu a indiqué de son côté qu'il cherche une solution gagnant-gagnant, mais n'a pas fait allusion à la proposition égyptienne.
Au Libéria, la population dans l'attente de son nouveau président. Au lendemain du second tour de la présidentielle qui a opposé l'ex-star du football, Georges Weah, au vice-président Joseph Boakai. Un scrutin dont le bon déroulement a été salué par les observateurs, Jean-Roger Bion.
Débuté mardi soir, le dépouillement des bulletins de vote devrait se poursuivre dans les prochains jours jusqu'à la proclamation du nom du vainqueur. Celui-ci va succéder à Hélène Johnson-Sirleaf, qui ne pouvait plus se représenter. Elle cédera le 22 janvier le pouvoir à son successeur, élu pour 6 ans. Dans un pays qui n'a pas connu d'alternance démocratique depuis 1944, cette transition est cruciale. Si le Libéria la réussit, ce sera une victoire pour lui, pour l'Afrique de l'Ouest et pour l'Afrique en général, a déclaré à l'AFP l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, chef des observateurs du National Democratic Institute, le NDI dont le siège est aux États-Unis. Le Libéria est un pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, meurtri par 14 ans d'une guerre civile particulièrement atroce, quelques 250 000 morts entre 1989 et 2003, puis par l'épidémie d'Ebola dont il peine à se redresser.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Sénégal, la foire internationale de Dakar est en cours depuis le 16 décembre jusqu'à la fin du mois. Plus de 40 pays y prennent part. Avec plus de 300 000 visiteurs chaque année, cet événement est considéré comme le plus grand rendez-vous commercial du Sénégal et de la sous-région. Mais malgré la vocation internationale de la foire, les commerçants locaux tirent leur épingle du jeu, si l'on en croit Boubacar Sadibou Diédou, membre des fêtières de Ziguinchor.
La foire est un événement qui permet à chaque terroir de valoriser un peu les potentialités locales. Donc à Casamance, nous avons une région agricole où se développent aussi des activités de pêche, d'arboriculture et tout. C'est bien de vendre parce que c'est vrai qu'on a mis du temps pour transformer les produits. Il va falloir qu'on trouve une occasion pour vendre comme on l'a fait. Mais là, c'est ponctuel. Pour la continuité, il va falloir trouver des partenaires.
Boubacar Sadibou Diédou, membre des fêtières de Ziguinchor au Sénégal. Crise migratoire maintenant sur 10 migrants ouest-africains, 7 restent sur le continent en s'enracinant dans différents pays sur leur route. Le Maroc fait partie de ces pays devenus pays d'accueil pour des milliers de subsahariens, selon un récent rapport du Centre de réflexion marocain OCP, au Policy Center. On écoute Salwa Jafari.
Sur l'une des principales artères de la capitale Rabat, Aliou Ndiaye se fond dans une foule de marchands ambulants. Depuis qu'il a renoncé à traverser la Méditerranée pour l'Espagne, ce jeune Sénégalais a multiplié les petits boulots avant de se mettre à son compte.
Quand je suis venu au Maroc, je considère que le Maroc c'est un pays ami. Je considère que le Maroc c'est un pays dans lequel j'ai le droit aussi, j'ai facilité de gagner ma vie. Quand quelqu'un est chez lui, il pense qu'il a le droit d'aller quitter pour voir dans les autres pays pour gagner sa chance. Je crois qu'il est possible de le faire comme le font les autres nationalités. C'est comme ça que je l'ai fait pour venir au Maroc.
Le parcours d'Aliou illustre une tendance qui polarise l'attention des responsables politiques, des humanitaires et des chercheurs. Avec la déstabilisation de la Libye et le durcissement de la politique migratoire européenne, le Maroc, pays de transit, est devenu un pays d'accueil. Les autorités marocaines ont basculé d'une approche sécuritaire qui criminalisait l'immigration clandestine à un discours d'intégration lié au rapprochement avec l'Union africaine, affirme le sociologue Mehdi Aliwa, par ailleurs président d'une association d'aide aux migrants. Papa Demba Mbaye a quitté son poste d'enseignant au Sénégal il y a 7 ans pour vivre l'aventure au Maroc. Attiré par les promesses d'emploi des centres d'appel, un secteur en plein développement en quête de francophones, il a vite compris que ce n'était pas un métier d'avenir. Grand défenseur du vivre ensemble, il anime une troupe de théâtre en périphérie de Rabat.
C'est un peu compliqué quand même. Moi, j'ai entendu à la radio donc, le roi dire qu'il faut faciliter donc, les papiers, mais j'ai comme l'impression que ça n'a pas été entendu.
Les autorités bouclent actuellement une opération de régularisation pour quelques 25 000 demandes de séjour après une vague de 23 000 régularisations en 2014. Leur nombre croissant n'est pas sans créer des tensions, des violences. Les dernières en date ont opposé en novembre dernier des riverains et des jeunes subsahariens d'un campement de Casablanca. On ne peut pas être accueilli à bras ouverts partout, constate Olivier Foutou, auteur et président d'une chorale à la cathédrale de Rabat. Ce Congolais de 34 ans est très remonté contre la mauvaise image donnée par ceux qui ne pensent qu'à l'Europe et ne veulent pas s'intégrer.
N'est-ce pas, découvrir aussi l'autre. À travers les chants ethniques, on peut connaître vraiment l'identité, n'est-ce pas, de chacun.
Et une identité de résident congolais au Maroc ne lui déplaît pas.
C'est ici au Maroc donc, que je trouve plus de diversité des nationalités. Et les gens sont un peu libres ici, par rapport à d'autres pays.
Les statistiques officielles montrent que près de 35 000 migrants ont obtenu une résidence en 2014. C'est légèrement au-dessus du nombre de migrants européens venus travailler ou cherchant une maison de retraite sous le soleil marocain.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.